VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Bion à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 5 mai 2023. Au Mali, les autorités fixent le référendum sur la Constitution au 18 juin. En Guinée, le chef de l'armée explique les dessous des limogeages.
On ne peut pas continuer à inquiéter les civils chaque fois qu'il y a la moindre faute et mettre les militaires à l'abri.
Des propos du général Sadiba Koulibaly expliqués dans un instant avec notre correspondant à Conakry. Soudan, l'ONU alerte sur le nombre effroyable d'enfants victimes de la guerre. Le Royaume-Uni se prépare pour l'intronisation de son roi, Charles III, prévu demain samedi. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, la junte promet d'organiser le référendum sur une nouvelle constitution et ce sera le 18 juin. C'est la première étape d'un calendrier vers un retour des civils au pouvoir. Le point avec Nani Talani.
Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin sur toute l'étendue du territoire et dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali pour se prononcer sur le projet de constitution, a indiqué le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Les membres des forces de sécurité voteront par anticipation le 11 juin. Les électeurs devront se prononcer par oui ou non sur le projet de constitution. Ils auront le choix entre un bulletin blanc pour dire oui et un bulletin rouge pour le non. La campagne s'ouvre le 2 juin et s'arrête le 16 juin, stipule le décret. Le projet de la nouvelle constitution renforce le pouvoir du président qui détermine la politique et non le gouvernement. Le président nomme le premier ministre et les ministres et met fin à leurs fonctions. Il peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale. Ce référendum, initialement prévu le 19 mars, est la première étape d'un calendrier qui doit aboutir à des élections en février 2024, pour le retour des civils au pouvoir.
En Guinée, le chef d'état-major des armées a affirmé que la dissolution du bataillon de la sécurité présidentielle il y a quelques jours n'était qu'une formalité administrative. Le général Sadiba Koulibaly s'est également prononcé sur ses rapports avec le président de la transition. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Le chef d'état-major général des armées a fait le tour de ce qu'il qualifie de rumeurs. L'invité de la télévision nationale a donné les raisons du limogeage de deux hauts gradés de l'armée, le commandant du centre d'entraînement aux opérations de maintien de paix et le directeur du renseignement militaire de l'état-major des armées. On ne peut pas continuer à inquiéter les civils chaque fois qu'il y a la moindre faute et mettre les militaires à l'abri, a affirmé le général Sadiba Koulibaly, qui n'a pas souhaité donner plus de détails sur cette question pendante devant la justice. Interrogé sur la dissolution du bataillon de la sécurité présidentielle, il a précisé qu'il s'agissait d'une mesure administrative visant à régulariser la situation et mettre fin à une unité qui n'avait plus de mission officielle. Enfin, le général Sadiba Koulibaly a voulu rassurer sur ses rapports avec sa hiérarchie. Face à des défis colossaux en termes de repositionnement d'infrastructures, nous avons beaucoup à faire que de nous livrer à des batailles d'ego. Il faut que les gens se rassurent. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
L'armée du Niger a annoncé aujourd'hui avoir tué 6 terroristes la semaine dernière dans la région de Tillabéri, une offensive menée lors d'une opération dans la zone d'Aoyourou qui a également permis d'arrêter 19 terroristes, indique le ministère nigérien de la Défense. Plus de 2000 soldats sont déployés depuis février 2022 dans cette région proche de la frontière malienne. L'influent sénateur nigérien Ike Ekweremadu a été condamné aujourd'hui à 9 ans et 8 mois de prison à Londres pour avoir voulu prélever le rein d'un jeune homme et le faire greffer à sa fille à l'issue d'un procès très suivi au Nigeria. L'élu de 60 ans, son épouse Béatrice et un médecin qui a servi d'intermédiaire avaient été reconnus coupables en mars d'avoir organisé le voyage au Royaume-Uni de leur victime, un vendeur de rue de Lagos. Les Nations Unies ont alerté ce vendredi sur le nombre effroyablement élevé d'enfants victimes de la guerre au Soudan. Selon des sources locales, 7 enfants seraient tués ou blessés chaque heure dans le conflit qui déchire le pays. Eric Mandirakiza.
Selon un porte-parole de l'UNICEF, l'agence a reçu des informations d'établissements de santé de Khartoum et de la région du Darfour qui attestent que 190 enfants ont été tués et 1700 autres blessés dans les 11 premiers jours du conflit. Ces estimations n'ont pas encore pu être vérifiées de manière indépendante. Ce chiffre ne recense toutefois que les enfants qui ont été pris en charge dans un de ces établissements de santé, a souligné le porte-parole. La réalité pourrait être bien plus grave, a-t-il ajouté. À Khartoum, la plupart des hôpitaux ne fonctionnent plus ou sont au ralenti faute de personnel. Depuis le 15 avril, plusieurs centaines de personnes ont été tuées, principalement à Khartoum et au Darfour. Les trêves successives n'ont jamais été respectées. L'OHCR a aussi alerté sur la situation en appelant les États voisins à accueillir les Soudanais fuyant les combats et à leur assurer un accès sans réserve à leur territoire, a déclaré sa chef devant la presse à Genève.
Au moins 13 civils ont été tués dans un camp de déplacés dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une région où persistent des affrontements sporadiques entre des groupes armés. Les autorités locales accusent une milice pro-Hutu, les CMC Nyatura, d'être responsable de cette attaque ayant visé le camp de Kizimba à 4 km de Kichanga dans le territoire de Rutshuru. Toujours en RDC, plus de 176 personnes sont mortes dans des inondations qui ont suivi les fortes pluies tombées jeudi soir dans le territoire de Kalehe, dans le sud Kivu. Il s'agit du bilan provisoire que le gouverneur de la province du sud Kivu, Théo Ngwabidje, a donné à VOA Afrique par téléphone depuis le lieu du drame. Plusieurs villages ont été touchés. Selon la société civile, le village de Niabkouiba a été littéralement emporté par les eaux et la boue. Les recherches se poursuivent.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le COVID-19 ne représente plus une urgence sanitaire mondiale, a déclaré aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, ouvrant la voie à la fin d'une pandémie qui a fait près de 7 millions de morts dans le monde. Le comité d'urgence de l'OMS avait décrété l'urgence de santé publique de portée internationale le 20 janvier 2020. La levée de ce statut est un signe de progrès, mais le COVID est toujours présent, même s'il ne représente plus une menace, a affirmé l'OMS. Inconditionnel de la monarchie britannique et dignitaires étrangers afflue à Londres pour le couronnement de Charles III. La cérémonie aura lieu demain à l'abbaye de Westminster devant 2300 invités et des centaines de millions de téléspectateurs. Alexandrine Ollognon.
Le roi Charles III est apparu ce vendredi devant Buckingham Palace. Le souverain de 74 ans s'est offert un bain de foule surprise avec les fans, déjà rassemblés en masse dans l'attente de cet événement historique. Les plus grands admirateurs de la monarchie campent depuis plusieurs jours sur le Mall, la longue avenue qui mène à Buckingham, afin d'être aux premières loges samedi quand le roi va quitter le palais pour se rendre à l'abbaye de Westminster, où il sera couronné avec la reine consort Camilla. Le Royaume-Uni n'avait plus connu un tel événement depuis 70 ans. C'est un moment d'énorme fierté nationale, a estimé le Premier ministre Rishi Sunak. Les invités étrangers dont Emmanuel Macron, le prince Albert de Monaco ou encore Jill Biden, l'épouse du président américain, arrivent à Londres et une réception est organisée aujourd'hui en leur honneur. L'approche du couronnement a donné l'occasion de rouvrir le débat sur l'avenir de la monarchie. L'institution reste défendue par une large majorité de Britanniques, mais ce soutien recule, surtout chez les jeunes.
Ici aux États-Unis, le président américain Joe Biden accuse les républicains de prendre l'économie en otage. Sur la question de la dette, il a vivement critiqué les républicains pour leur refus de voter en faveur d'un relèvement du plafond de la dette, indiquant que la Maison Blanche ne ferait guère de compromis le 9 mai pendant une réunion avec les chefs de file du Congrès. La dernière chose dont ce pays a besoin, c'est d'une crise fabriquée de toutes pièces, a-t-il notamment déclaré. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, a affirmé que ses forces vont quitter la ville ukrainienne de Bakhmout le 10 mai en raison de lourdes pertes et faute de munitions. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, dit ne pas être en mesure de commenter les déclarations du fondateur du groupe privé engagé depuis des mois dans un bras de fer avec le ministre de la Défense. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
Au Congo-Brazzaville, les femmes des groupements coopératifs de Luango dans le Kwilu ont reçu du gouvernement une formation et des kits pour l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ces kits, déjà distribués dans le pool, le Niari et la cuvette, sont composés des motokavaki, motopompes, brouettes, arrosoirs, gilets de sauvetage et autres objets. Ils permettront de combattre les insécurités alimentaires et aideront les bénéficiaires à participer au développement socio-économique de leur pays. Au Bénin, plus d'un million d'habitants de Cotonou, de Porto-Novo et de leurs agglomérations ont déjà accès à l'eau potable à moindre coût grâce à un projet d'eau financé par la BAD à 8,87 millions de dollars. Le projet a permis d'acquérir des équipements et des installations hydrauliques et électromécaniques, des compteurs clients, des conduites et des accessoires. En outre, 2300 mètres lignes de conduite vétustes ont été remplacées. Pour terminer, les administrateurs de la Banque mondiale ont nommé depuis le 3 mai Adjaï Bonga à la tête de l'institution pour un mandat de 5 ans à partir du 2 juin. Il va remplacer David Malpass. Adjaï Bonga, indien naturalisé américain, vient du secteur privé. Il a été ancien PDG de Mastercard et vice-président de General Atlantic.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Parlons d'abord du cyclisme en Afrique avec la 18e édition du Tour du Bénin.
Le Camerounais Rodrigue Kéré a remporté en solo la 4e étape du Tour du Bénin, courue entre Kétou et Porto-Novo, longue de 109,45 km. Il a devancé l'Algérien Yassine Hamza et le Marocain El Housdine Sabahi. C'est la première étape remportée par le Camerounais depuis le début de la Grande Boucle, d'où sa satisfaction au micro de Élisée Ongpatine.
Ce n'était pas facile. Avec la stratégie que les encadreurs ont mis en marche ce matin, on a dit que dès les 30 km, on doit pouvoir sortir parce qu'il y a déjà la fatigue dans le peloton. Donc ce n'était pas facile. Bon, j'ai dit que je vais tenter ma chance à 15 km de l'arrivée jusqu'à ici arriver.
Alors, on a vu le Cameroun durant ce tour tenter plusieurs échappées. Cette fois-ci, la stratégie a été payante.
Oui, oui, la stratégie a été payante parce qu'il y a déjà la fatigue dans le peloton. Donc, la stratégie des encadreurs, c'était que dès les 30 km, on bouscule tout le peloton parce que ce n'était pas facile. Il y a de la concurrence. Donc, on remercie le bon Dieu pour cela.
Alors, que s'est-il passé lors du dernier sprint?
Lors du dernier sprint, quand la doisée est venue monter à 5 km de l'arrivée, que j'étais à 51 secondes, donc je me suis dit que bon, je peux arriver parce qu'aux entraînements, on a eu à faire cela. Je me suis dit que si on me prend 10 secondes par kilomètre, même si on me prend avec 10 secondes à l'arrivée, c'est pas facile. Donc, je me suis donné à fond jusqu'à traverser la ligne d'arrivée.
Au classement général, c'est toujours le Marocain Achraf Ed Dogmi qui conserve le maillot jaune à 12 secondes de l'Algérien Yassine Hamza et du Camerounais Clovis Kamzang à Bosolo. La cinquième et dernière étape aura lieu demain entre Séoué et Cotonou d'une distance de 135 km.
À suivre demain en Espagne, la finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et Osasuna.
La Liga a presque perdu. Le Real Madrid peut se consoler avec quelques trophées samedi à Séville. Et les merengues affrontent Osasuna en finale de la Coupe du Roi et rêvent de rafler la 20e Copa de leur histoire, trois jours avant une demi-finale de Champions League contre Manchester City. Carlo Ancelotti l'a promis le 18 mars dernier, il y a près de deux mois. Je suis convaincu que nous allons gagner quelque chose cette saison.
En France, l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne commente pas la situation de Messi au PSG.
Christophe Galtier s'exprimait pour la première fois concernant la suspension de sa superstar argentine, Lionel Messi. Il a indiqué ce vendredi ne pas commenter la décision de la direction du club. Messi ne s'entraîne pas, ne joue pas et n'est pas payé pendant cette période. Selon plusieurs médias, la sanction durera deux semaines, une information que le club n'a pas confirmée. Le club a ouvert mardi une procédure disciplinaire à l'encontre de la Pulga, suspendue plusieurs jours après un voyage en Arabie Saoudite effectué sans l'accord de son club.
Mondiaux 2023 de judo, les Russes de retour sur le tatami.
Les mondiaux de judo qui s'ouvrent dimanche à Doha seront la première compétition internationale d'envergure à accueillir de nouveau des sportifs russes et bélarusses, exclus de la plupart des événements sportifs depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.
Page de sport VOA Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé un grand entretien hier soir à la télévision nationale. Il a été question essentiellement de la lutte contre le terrorisme. Selon lui, le pays est sur la bonne voie. La guerre a commencé, mais n'est qu'à son introduction. Les réactions à Ouagadougou avec notre correspondant, Lamine Traoré.
L'entretien du président de la transition a duré un peu plus d'une heure. La lutte contre le terrorisme, la réforme de l'État, mais aussi la question de la gouvernance ont été les points abordés. Mais il fallait s'y attendre. La lutte contre le terrorisme a dominé tout l'entretien et sur ce plan, le Burkina est sur la bonne voie, a rassuré le capitaine Ibrahim Traoré. Une sortie relativement bien appréciée dans les rues de Ouagadougou. Yaya Koumaré, juriste.
Je sens que à travers ce jeune président, nous retrouvons enfin un homme d'État. Un homme qui aime son pays, un homme qui peut faire sortir son pays du sous-développement. Le sous-développement n'est pas uniquement économique, c'est aussi le sous-développement mental que nous vivons actuellement. On a trouvé un président engagé, un président qui s'assume. Et je pense que c'est ce que le Burkinabé recherchait.
Jean-Claude Lamizana est mécanicien.
Ce que je retiens dans ce discours, c'est que tous les fils et les filles du Burkina doit en tout cas se réunir autour de l'oiseau rare afin que nous puissions relever le défi. Le fait d'être informé, de comprendre si tout ce que le président a dit, c'est aux yeux de tout, il n'y avait rien de faux dedans. Tout était vraiment clair aux yeux de tout.
Aboubakar Guiro, gestionnaire de projet.
Depuis très longtemps, et les présidents ont essayé. Malheureusement pour toute l'Afrique, ça n'a jamais marché parce que tous les présidents qui ont essayé de sortir la tête de l'eau et de faire sortir la tête de la population de cette même eau-là ont été assassinés, ils ont été éliminés. Il y en a plein qu'on connaît. Aujourd'hui, Ibé est l'aspiration. Il est ce que le peuple burkinabé attendait. Nous avons voulu la vérité, il est en train de nous apporter la vérité.
Adama Bayala est analyste politique.
J'ai vu un chef d'État, l'air sérieux. J'ai vu un chef d'État résolu à libérer le Burkina Faso par l'option, la seule option de la guerre. La guerre, rien que la guerre. Nous avons vu un chef de l'État dans un exercice qui rappelle bien d'autres, où le chef de l'État indexe ses adversaires, ses ennemis internes et externes. J'ai vu un homme d'État, les mains croisées, comme fermé sur lui-même, qui se trouverait beaucoup plus tendu.
Pour le capitaine Ibrahim Traoré, la guerre, il faut la faire. Et les forces de défense et de sécurité ainsi que les supplétifs de l'armée sont engagés. Ni Wagner, ni aucune autre force étrangère ne viendra combattre à la place des Burkinabés. A-t-il insisté sur la question des partenariats dans la lutte? Il parle d'alliés stratégiques comme la Russie ou encore la Turquie. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Burundi, la cour d'appel de Bujumbura a condamné la journaliste Floriane Irangabiye à 10 ans de prison ferme à la veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Elle est accusée d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, confirmant ainsi le jugement rendu par la justice burundaise. Des voix dans la presse condamnent cette incarcération contraire à la liberté d'expression. Les précisions avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkuruziza.
Floriane Irangabiye, journaliste, vient de passer plus de 6 mois dans une prison au nord du Burundi, accusée d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et vient d'être condamnée à 10 ans de prison ferme et une amende d'1 million de francs burundais. Ce jugement confirme celui rendu par le tribunal de première instance le 3 janvier. Dans les studios de la radio indépendante Isanganiro, plusieurs journalistes ont affiché leur désarroi face à cette condamnation. Misa Ago est chargé des programmes à la radio Isanganiro.
C'est déplorable de voir un professionnel des médias condamné à une peine pareille. 10 ans de prison, c'est une longue période. Et souvent, on entend la même accusation atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Alors, on s'imagine comment le pouvoir de Gitega avait lancé un slogan selon lequel « jamais sans les médias ». Et à contrario, on voit l'incarcération des journalistes. C'est quelque chose de déplorable.
Léonce Vitariho est journaliste depuis plus d'une décennie. Il était optimiste quant à la libération de sa consoeur Floriane Irangabiye, mais il se demande si ses confrères et consoeurs qui avaient quitté le Burundi et parti se réfugier au Rwanda voisin vont avoir le courage de revenir au pays.
Même ceux qui ne sont pas accusés de telle ou telle autre chose, de ce qui a eu lieu en 2015, est-ce qu'ils peuvent avoir le courage de rentrer? Là, je ne pense pas. Et vivait dans ce pays pendant longtemps. Je pense que ça décourage même ceux qui voudraient rentrer parce que ils se diront qu'ils seront accusés d'atteinte, atteinte à la sûreté intérieure.
Beaucoup de Burundais et d'étrangers appellent le gouvernement à intervenir pour la libération de cette journaliste qui est parmi les 2 femmes journalistes incarcérées en Afrique. Et ça ne serait que justice pour la liberté d'expression qui est moteur de toute démocratie. Madame Francine Diokugayo, présidente et représentante légale de l'Association des femmes journalistes.
La liberté d'expression, ça devrait être le moteur de tous les droits. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de liberté d'expression, si les gens ne peuvent pas s'exprimer librement, si les gens ne peuvent pas donner leurs avis par rapport à un sujet ou à un autre, ben, ça devient un problème.
L'avocat à la défense, Maître Eric Niwandetse, nous a affirmé que la famille va interjeter appel, tandis que le ministère de la Justice n'a pas voulu intervenir, car l'affaire est pendante. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, les autorités évaluent la situation sécuritaire du pays. Elles appellent à plus de vigilance contre d'éventuelles instrumentalisations des crises sociales. Les responsables des questions de sécurité préconisent aussi des mesures contre les poches d'insécurité. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Ntap.
Au cours d'une concertation à Yaoundé avec les responsables des questions sécuritaires, le ministre de la Défense a alerté sur les facteurs d'éventuels troubles à l'ordre public. Joseph Bétia Somo, ministre de la Défense.
La conjonction des facteurs tels que les perturbations de la fourniture de l'énergie électrique aux populations, la dégradation effrénée des mœurs d'une jeunesse consommant drogue, alcool et stupéfiants, la montée des crimes rituels et des violences au sein des familles, débouchant parfois en homicide et pénurie de carburant ça et là, et l'inflation des prix de certaines denrées de grande consommation mériterait d'être suivie de très très près, afin d'éviter que l'instrumentalisation ne génère des situations de troubles à l'ordre public.
Sur le terrain des opérations, Joseph Bétia Somo, le ministre de la Défense, parle d'une situation sous contrôle.
Nos forces conservent l'initiative de la manœuvre sur le terrain. L'intense activité qu'elles mènent actuellement à travers les offensives et les opérations de ciblage contribue efficacement à réduire les velléités d'action ennemies.
La région de l'extrême nord voisine au Nigeria est en proie à des attaques de Boko Haram. En prélude à la fête nationale, le 20 mai prochain, le chef d'état-major de l'armée, le général des corps d'armée, Rémi Claude Meka, s'y est rendu pour un point sécuritaire livré ici par colonel Tioka Pierre Loti, commandant du secteur 1 de la force multinationale mixte.
Nous sommes actuellement en implémentation de la phase de stabilisation. Ça ne peut pas être à 100% avec les villages frontaliers qui subissent encore des incursions sporadiques.
La situation sécuritaire dans les zones anglophones cristallise aussi la tension des autorités. Des séparatistes y affrontent l'armée régulière. Adolphe Lélé, l'Afrique, gouverneur de la région du Nord-Ouest.
Les populations déplacées reviennent progressivement dans leurs villages. Nous observons que la normalité reprend progressivement corps. Nous pensons que nous aurons affaire à des jours meilleurs dans l'ensemble de la région du Nord-Ouest.
Le ministre de la Défense, Joseph Bétia Somo, a préconisé des mesures énergiques contre les phénomènes tels que les coupeurs de route, les attaques à main armée, par des bandes de jeunes dans les grandes agglomérations. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Retour au Burkina Faso et précisément à Bobo-Dioulasso où se déroule la Semaine nationale de la culture, une biennale des arts et des sports traditionnels qui a vu l'introduction d'une technologie digitale afin d'apporter plus de sécurité autour de la billetterie pour les visiteurs et l'accréditation pour les festivaliers. De Bobo-Dioulasso, la correspondance de Kader Traoré.
La Semaine nationale de la culture Bobo 2023 bat son plein au Burkina Faso. Une biennale placée cette année sous le sceau de l'unité nationale. Pour répondre aux défis sécuritaires que connaît le pays, le comité d'organisation a introduit une innovation digitale avec l'application Vibes Décret. Cette technologie a permis de confectionner des badges pour les festivaliers et des tickets d'entrée sécurisés pour les visiteurs. Carlos Sawadogo est le président de la commission accréditation de la SNC 2023.
Si vous remarquez sur le ticket et le badge, on a le code QR qui est présent. Lorsque quelqu'un qui est accrédité, qui est venu en fait au niveau de la commission d'accréditation, qui a eu accès à son badge, ou quelqu'un qui arrive à un site précis, parce qu'on a plusieurs sites, si je prends l'exemple de ce ticket qui concerne la foire, à la porte, on a une équipe qui scanne les tickets.
Cette équipe est dirigée par Pazoukmam Jean-Baptiste Ouedraogo. Il est le coordonnateur du projet Vibes Décret au Burkina. Ses hommes et lui passent tous les festivaliers au scanner, ce qui permet de détecter et saisir les billets frauduleux ou des badges contrefaits selon l'expert.
Mais sur la plateforme, on a les données statistiques régulièrement sur l'argent qu'on paie à travers les tickets et aussi le nombre d'entrées et segmentées hommes et femmes. Et en plus, vous savez que dans certaines activités, et on investit beaucoup d'argent, mais en retour, on n'a rien. Pourquoi? Parce que les gens fraudent les tickets. Voilà, je fais 10 000 tickets et quelqu'un va fabriquer 3 000 tickets dans le marché noir. Il vient, il l'introduit, il le vend et tu n'as pas l'argent que tu as investi. Donc du coup, avec les QR codes, des identités uniques, tu ne peux pas. Dès que ton ticket vient et ça n'a pas le QR code qui était généré par la plateforme, ça ne peut pas passer. On se rend compte que c'est un ticket fraudé et tu remets entre les mains des FDS ou bien le ticket est simplement détruit.
L'autre constat est que cette nouvelle technologie apporte un supplément de patience dans les files d'attente devant les sites. Si certains visiteurs trouvent cela harassant, Steve Zampalegré, lui, estime que c'est une bonne chose.
Ceux qui ont les badges, on sait qui est là. Il y a combien de personnes actuellement qui portent badge à l'intérieur ou il y a combien de personnes qui ont payé ticket et qui sont à l'intérieur. Donc on a une estimation déjà du nombre de personnes qui se retrouvent à l'intérieur. Je pense que c'est les données qui permettent à la sécurité, en cas de besoin, de pouvoir savoir comment évacuer rapidement toutes ces personnes-là.
À côté de cette nouvelle technologie digitale, la commission de sécurité véhicule également des messages à l'endroit des exposants, des artistes et des visiteurs afin d'observer les mesures pouvant assurer le bon déroulement de la SNC. Kader Traoré, Bobo-Dioulasso, pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.